19h30, temps universel. Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde aujourd'hui, édition du mardi 3 juin 2014, en direct du studio 13 à Washington. Au micro, Morgane Guiriec et Timothée Donangmaï. Bonsoir Tim.
Bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, en Centrafrique, nouvelle attaque sur une maison de MSF à Ndélé. Plusieurs émissaires de la région des Grands Lacs s'inquiètent du climat politique au Burundi.
Nous essayons de pousser les uns et les autres à mettre en place les conditions pour donner des garanties d'une bonne élection transparente, démocratique et inclusive pour 2015.
En Libye, installation de force du nouveau Premier ministre Ahmed Mittig. Les États-Unis promettent de travailler avec le nouveau gouvernement palestinien et les autorités israéliennes se sentent trahies. Sans oublier les sports et la musique. Mais avant, le journal.
En Centrafrique, Médecins sans frontières a retiré une partie de son personnel de la ville de Ndélé suite à une nouvelle attaque contre ses équipes médicales et ses structures. Par ailleurs, des affrontements ont été signalés hier à Bakala, près de Bambari. Le point avec Nicolas Pinault.
Quatre hommes sont entrés dans la nuit de dimanche à lundi dans la maison de MSF à Ndélé pour perpétrer un vol à main armée. Javier Egoren, chef de mission MSF, se dit consterné par la violence contre ses équipes dont une partie a été temporairement évacuée de cette ville.
Il y a eu un peu de violence, ils sont frappés un ou deux de notre staff là-bas. C'était vraiment très agressif, très énervé, c'était tendu. On n'a pas suspendu les activités, il y a l'équipe nationale qui reste sur place, ils font encore tourner l'hôpital.
Cette attaque intervient un mois après le massacre de Bogila, où 18 civils, dont 3 employés de MSF, ont été tués. Par ailleurs, des affrontements ont été signalés hier entre Antibalaka et Ex-Seleka à Bakala, 70 km de Bambari. Ahmad Nejaj, porte-parole des Ex-Seleka, a affirmé que Bakala avait été attaqué par des Antibalaka qui ont été repoussés. Pendant ce temps, à Bangui hier, à l'ouverture de la session, le CNT a recommandé aux autorités de transition l'organisation d'un dialogue inter-centrafricain et la mise en place d'un plan d'aide pour favoriser le retour des déplacés.
En Libye, la police a installé de force le nouveau Premier ministre à Tripoli. Ahmed Mittig a ainsi tenu son premier conseil à la primature que le gouvernement sortant refusait de quitter. Issa Napon.
Cette réunion ministérielle se tient quelques semaines après l'élection controversée du Premier ministre par le Parlement libyen. Son prédécesseur Abdullah Altini et ses alliés ont critiqué les conditions du vote et refusé de reconnaître Ahmed Mittig à la tête du gouvernement. M. Mittig, soutenu par les islamistes, a dénoncé les affrontements qui ont fait au moins 20 morts à Benghazi. Les combats hier lundi ont opposé les troupes loyales au général Khalifa Haftar aux militants d'Ansar al-Sharia. Il y a 2 semaines, le général Haftar, bénéficiant du soutien d'une partie de l'armée, a lancé une offensive contre les islamistes. Depuis des mois, le pays est enlisé dans des violences, l'instabilité politique et des divisions tribales. La semaine dernière, Washington avait ordonné à tous les Américains de quitter immédiatement la Libye.
À noter en Égypte cette victoire sans surprise d'Ahmed Fattah el-Sissi à la présidentielle. L'ancien chef de l'armée a remporté 96% des suffrages selon la commission électorale.
À Abuja, la capitale du Nigeria, les manifestations, exigeant la libération des jeunes filles enlevées par Boko Haram ont été interdites. Une mesure prise pour des raisons de sécurité, expliquent les autorités. Les manifestants entendent saisir la justice pour contester cette interdiction. Ils espèrent ainsi l'attention sur l'enlèvement des jeunes filles et faire pression sur le gouvernement pour sauver les victimes.
Au Soudan du Sud, des cas de choléra ont été enregistrés hors de Djouba pour la première fois depuis l'apparition de la maladie mi-mai. Jusqu'ici, 1124 cas de choléra, dont 27 mortels, ont été enregistrés. Plus d'un million de déplacés qui ont fui les violences vivent dans des conditions favorisant la propagation de cette maladie.
Serge Lazarevitch, otage français enlevé en novembre 2011 au Mali, est apparu dans une vidéo diffusée aujourd'hui par une chaîne basée à Dubaï. Dans cette vidéo, il appelle le président François Hollande à agir pour sa libération. Serge Lazarevitch a été enlevé dans un petit hôtel dans le nord du Mali en compagnie de Philippe Verdon, qui lui a été retrouvé mort d'une balle dans la tête en juillet 2013. L'enlèvement avait été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La situation en Ukraine était à l'ordre du jour ce mardi lors de la visite en Pologne du président américain Barack Obama. Il a tenu à rassurer les dirigeants européens du soutien des États-Unis. Lionel Gaïman.
Après avoir rencontré à Varsovie le président polonais Bronislaw Komorowski, M. Obama a appelé la Russie à prévenir la circulation des armes dans l'est de l'Ukraine et à user de son influence pour amener les séparatistes sur le chemin de la paix. Dans ce sens, il demande au président Vladimir Poutine de rencontrer le nouveau leader ukrainien Petro Porochenko. Barack Obama a souligné que lui et son homologue polonais étaient du même avis.
Basic principles of territorial integrity.
Les principes de base de l'intégrité territoriale, de la souveraineté, de la liberté, de la capacité d'un peuple à prendre ses propres décisions quant à l'avenir de son pays est la pierre angulaire de la paix et la sécurité que nous avons connue en Europe au cours de dernières décennies et qui est menacée par les actions de la Russie en Crimée et maintenant l'activité russe dans l'est de l'Ukraine. Par ailleurs, il a proposé d'affecter jusqu'à 1 milliard de dollars pour le déploiement des soldats américains en Europe de l'Est, mais cette proposition doit d'abord être approuvée par le Congrès américain.
En Ukraine, les combats se sont poursuivis ce mardi entre les forces gouvernementales et les séparatistes pro-russes dans l'est du pays. De violents affrontements se déroulent dans la région de Donetsk et Lugansk, apprend-on de sources officielles. Une explosion dans le bâtiment de l'administration régionale de Lugansk a fait au moins 7 morts. Ce complexe abrite des dirigeants du mouvement séparatiste. Hier, 5 rebelles sont morts et 10 soldats blessés, dont 4 grièvement. Suite à l'attaque par les séparatistes d'un poste frontalier près de la Russie, Washington accuse Moscou de soutenir la rébellion dans l'est de l'Ukraine, une accusation que démentent les autorités russes.
Le président américain Barack Obama défend sa décision de libérer 5 extrémistes afghans de Guantanamo en échange d'un soldat américain fait prisonnier en 2009 par les talibans. Dans un entretien avec la presse en Pologne, M. Obama a déclaré que les États-Unis ont une obligation sacrée de ne pas abandonner leurs soldats sur le champ de bataille. Face aux critiques du Congrès, Barack Obama affirme que son administration consulte les législateurs depuis quelque temps sur l'échange de prisonniers. Selon le chef d'état-major interarmes, le général Martin Dempsey, c'était peut-être la dernière et la meilleure opportunité de libérer le sergent Bo Bergdahl. Les 5 prisonniers afghans ont été transférés dimanche au Qatar, où ils devront rester au moins 1 an.
Les États-Unis entendent pour le moment travailler avec le nouveau gouvernement d'union nationale formé par le Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas et le Hamas. Pour sa part, le premier ministre Benjamin Netanyahou, selon un commentateur politique israélien, se sent trahi et trompé. Les précisions de Michel Joseph.
Washington se promet de juger la nouvelle équipe palestinienne par ses actes et d'agir en conséquence. Lundi, la porte-parole du département d'État américain, Jen Psaki, avait fait remarquer que ce gouvernement de technocrates n'incluait aucun ministre affilié à Hamas. Ce à quoi, selon l'AFP, a rétorqué un proche de M. Netanyahou, le ministre chargé du renseignement, Yuval Steinitz. Il n'est pas possible de présenter en privé ce gouvernement comme celui du Hamas et le qualifier ensuite publiquement de gouvernement de technocrates. C'est un gouvernement du Hamas, un gouvernement terroriste. Catherine Ashton, chef de la diplomatie européenne, a salué la mise en place de ce gouvernement palestinien, mais a averti que le soutien européen sera basé sur les actions et engagements de la nouvelle équipe.
Les Syriens ont voté ce mardi dans le cadre de l'élection présidentielle, un scrutin qui devrait offrir au président Bachar al-Assad une victoire écrasante pour un nouveau mandat de 7 ans, au moment où la guerre civile meurtrière se poursuit à travers le pays. Jean-Roger Bion.
15 millions d'électeurs étaient attendus aux urnes pour ce scrutin présidentiel. L'opposition syrienne et ses alliés occidentaux ont dénoncé l'élection qui oppose M. Assad à deux personnalités peu connues et approuvées unilatéralement par le gouvernement. Pour le premier ministre syrien Wael Al-Halki, cette élection va propulser le pays sur la voie de la guérison. Tout le contraire pour le Conseil national syrien, l'opposition. Son porte-parole Khaled Saleh estime que les résultats n'auront pas d'impact réel sur l'avenir de la Syrie.
Assad contrôle toujours l'armée, contrôle encore les services de renseignement, contrôle encore dans une certaine mesure les milices étrangères. Et même si l'un de ces deux autres candidats gagne, ils n'ont aucun moyen d'exécuter quoi que ce soit dans le pays. Assad a été très clair, il contrôlera ce pays, il va tuer toute personne qui s'oppose à lui et il fera tout ce qu'il faut pour rester au pouvoir.
Les rebelles qui ont appelé au boycott se battent depuis plus de 3 ans pour renverser le régime Assad et les combats ont continué encore aujourd'hui dans la banlieue de Damas.
L'arrestation à Londres d'un influent homme politique pakistanais suscite des craintes de violence à Karachi, sa ville natale. Selon des responsables du mouvement Mutaïa Kaoumi, Altaf Hussein, qui vit en exil volontaire depuis le début des années 90, a été arrêté aujourd'hui. Il est soupçonné de blanchissement d'argent. Toutefois, la police britannique n'a pas confirmé son identité. À la nouvelle de son interpellation, les commerces ont subitement fermé à Karachi par crainte de manifestations violentes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriec et Timothée Donangmaï.
Human Rights Watch rejette catégoriquement un rapport du ministère rwandais de la justice l'accusant d'être devenu, et je cite, « le porte-parole des groupes terroristes ». Publié hier dans un journal proche du gouvernement, le document soutient qu'il est désormais impossible de différencier le travail de cette ONG de la propagande des groupes terroristes en exil, une allusion au groupe opposé au gouvernement du président Paul Kagame. Pour une réaction aux allégations rwandaises, nous avons joint à Londres Karina Taksin de Human Rights Watch.
Human Rights Watch, au Rwanda comme partout ailleurs, est une organisation complètement indépendante. Nous documentons les exactions contre les Rwandais, quel que soit leur point de vue politique ou autre. Et nous agissons d'une manière tout à fait impartiale. Nous n'avons pas de parti pris ni d'affiliation politique.
Les autorités rwandaises estiment que vous plaidez pour l'intégration des partis d'opposition en exil, alors que ces partis pourraient être liés à des génocidaires.
Ce n'est pas du tout vrai. Nous n'avons jamais cherché à justifier ou à soutenir le point de vue des FDLR. Au contraire, dans notre travail au Congo notamment, nous avons mené des enquêtes approfondies et publié d'ailleurs des rapports qui décrivent en détail les exactions terribles commises par les FDLR au Congo, des cas de massacres, des viols et autres exactions. Donc je ne vois pas du tout comment on peut nous accuser d'avoir soutenu les FDLR.
Pensez-vous pouvoir continuer votre travail au Rwanda après ces accusations du gouvernement rwandais?
Nous l'espérons sincèrement. Human Rights Watch a un dialogue régulier avec les autorités rwandaises et notamment avec le ministre de la Justice. Nous partageons régulièrement des informations avec eux, nous partageons nos préoccupations. Ça fait des années que nous travaillons dans ce pays. En fait, Human Rights Watch travaille sur le Rwanda depuis même avant le génocide de 1994. Donc ce serait vraiment dommage si on ne pouvait plus faire ce travail. Mais nous avons l'espoir que si nous arrivons à maintenir le dialogue avec le gouvernement, que nous réussirons à continuer notre travail dans ce pays.
Quel est l'intérêt de ce travail que vous faites au Rwanda?
Bon, l'intérêt du travail que nous faisons au Rwanda est le même que l'intérêt du travail que nous faisons dans d'autres pays. Nous faisons des enquêtes sur les violations des droits humains commises dans différents pays. Nous portons ces cas à l'attention du gouvernement concerné. Nous publions les informations, nous sensibilisons le public avec comme objectif, bien sûr, de mettre fin aux violations des droits humains et de soutenir une culture qui respecte les droits humains.
Vous écoutiez Karina Taksin de Human Rights Watch à Londres.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Plusieurs diplomates en charge des Grands Lacs ont dénoncé hier les entraves aux libertés et activités de l'opposition au Burundi. Mary Robinson, envoyée spéciale de l'ONU, Boubacar Diarra de l'Union africaine, Ross Feingold, émissaire américain, et Cohen Varvenke de l'Union européenne s'inquiètent du climat dans le pays avant les élections générales de 2015. Idriss Fall a joint à Bujumbura l'ambassadeur Boubacar Diarra, représentant spécial de l'Union africaine.
Au Burundi, l'an passé, avec les Nations Unies, on a ouvert un dialogue pour convaincre les exilés de revenir. Ceux-là qui n'étaient pas contents avec les élections de 2010, ils sont revenus. On a institué un dialogue pour rétablir la confiance et créer l'environnement politique nécessaire pour que ces gens aient accès à leur base politique, aient accès à leurs militants et à se préparer pour les élections de 2015. Aujourd'hui, nous constatons malheureusement qu'il y a restrictions à leur liberté de mouvement, à la possibilité qu'ils ont de pouvoir exercer leurs activités. Et ça, je crois que c'est un peu notre préoccupation en tant qu'envoyés spéciaux de la région des Grands Lacs. Comment mettre en place un environnement politique qui puisse permettre à ces leaders et acteurs politiques de mener en toute liberté leurs activités pour qu'au dernier jour, ils ne viennent pas prétexter de ce manque d'atmosphère, de climat et d'environnement pour faire faux bond au processus électoral.
Mais le Burundi a une longue tradition de guerre civile et récemment, on arrête à tour de bras les militants des droits de l'homme, les journalistes. Est-ce que vous ne craignez pas des dérapages?
Justement, c'est cela que nous voulons éviter en créant cet espace politique entre tous les acteurs politiques. Et je pense que si la feuille de route que nous avions adoptée l'an passé avait été respectée scrupuleusement, bon, nous aurions pu ne pas assister à ce que vous avez appelé dérapage. Et je pense qu'il y a quand même des éléments qui sont à noter. La classe politique a adopté au mois d'avril dernier un code électoral par consensus, ce code de conduite entre les acteurs politiques pour vraiment s'accorder sur les règles en vue de mettre en place un cadre favorable à la préparation sereine des élections. Mais dans le même temps, nous essayons de pousser les uns et les autres à mettre en place les conditions d'un exercice libre des activités politiques pour que vraiment nous puissions rebondir sur cet environnement politique pour donner des garanties d'une bonne élection transparente, démocratique et inclusive pour 2015.
L'ambassadeur Boubacar Diarra, représentant spécial de l'Union africaine dans la région des Grands Lacs.
Rendons-nous maintenant au Togo où le dialogue politique débuté le 19 mai devait prendre fin le 31 mai, mais des points de divergence subsistent. Alors que le collectif Sauvons le Togo prédit l'échec de ce dialogue, le facilitateur, Mgr Nicodème Bariga, sollicite une prorogation de 2 ou 3 jours pour faire le rapprochement des idées en vue de la finalisation du rapport. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Je vois que les parties prenantes de ce dialogue ne font que nous tourner en bourrique. Je ne suis pas sûr que ce dialogue va nous donner quelque chose de potable.
C'est le point de vue de ce Togolais sur le dialogue en cours et qui était censé prendre fin le 31 mai dernier. Le collectif Sauvons le Togo le rejoint partiellement et se dit même pessimiste. Maître Zeus Atta Ajavon, il est le coordonnateur du collectif Sauvons le Togo.
Au CST, nous avions rêvé que ce dialogue serait le dernier dialogue qui allait permettre au Togo de se remettre à flot et de permettre un consensus national qui va permettre de mettre en place des institutions pérennes et fortes. Nous sommes dans un pessimisme total. Mais s'il est lié à la volonté d'une seule personne et aux intérêts d'un seul homme, nous allons faire appel à la seule âme dont nous disposons, à savoir la voix du peuple.
À l'issue de la journée du 31 mai, le facilitateur fait remarquer que les rideaux ne pouvaient pas tomber sur ces discussions et qu'il fallait une prorogation de 48 ou 72 heures au plus. Nous écoutons Mgr Nicodème Bariga.
Nous avons constaté qu'on ne pouvait pas adopter le rapport final et qu'il fallait peut-être solliciter la prorogation de quelques jours pour pouvoir adopter un test final à soumettre au gouvernement. Nous avons, dans un premier temps, donc, essayé de balayer toutes les 12 questions pour voir la position concrète de chaque partie. Naturellement, dans un dialogue comme celui-ci, il faut nécessairement un temps de rapprochement des positions. L'objectif n'ayant pas été pleinement atteint encore, nous allons poursuivre le rapprochement des positions.
Les discussions reprennent normalement ce mardi et à l'ordre du jour, la recherche du consensus autour des points discutés au cours de ce dialogue afin de permettre la finalisation du rapport qui devra sanctionner les 2 semaines de concertation entre les partis parlementaires togolais. Kay Lawson, Lomé, pour La Voix de l'Amérique.
Ici Robert Daguillard. Cette semaine, Washington Forum vous donne un avant-goût de la Coupe du monde de football au Brésil qui aura lieu cette année du 12 juin au 13 juillet. Quelle est votre équipe favorite? Qui a le plus de chances de remporter le tournoi de cette année? Et comment la VOA se prépare-t-elle à couvrir cet événement? Washington Forum, comme toujours, c'est jeudi à 19h TU.
La Guinée a enregistré de nouveaux cas de fièvre hémorragique Ebola dans 3 nouveaux foyers proches de la capitale. 178 cas suspects, dont 113 décès. C'est le dernier bilan de l'épidémie. Reportage de Zakaria Camara, notre correspondant à Conakry.
Le ministre guinéen de la Santé tient à préciser qu'il s'agit de la difficile gestion de l'épidémie. Malgré le bilan lourd de plus de 100 morts, certains ne croient pas à l'existence de la maladie. Et c'est pour cette raison que le docteur Rémi Lama insiste sur la nécessité d'informer les Guinéens.
Je dis qu'ici, certains n'y croient pas. Ils pensent que c'est une maladie mystique, bien que la science a révélé à travers la biologie sur certaines personnes qui ont été prélevées et que l'examen s'est révélé positif. Mais on a besoin de la communication, on a besoin de leur sensibiliser pour qu'ils comprennent, qu'ils sachent que réellement la maladie existe et que ces gens-là acceptent de venir dans un centre de traitement pour qu'ils soient pris en charge.
Télémélé, Bofa et Dubrika, 3 nouveaux foyers restent à circonscrire. 10 malades, dont 3 décès, ont été signalés dans ces localités proches de la capitale. Et pour le ministre guinéen de la communication, il ne s'agit pas de nouveaux cas. Aloucine Makane Rakake.
Ce ne sont pas de nouveaux cas. C'était des personnes qui ont été connues, répertoriées. Ce sont ces personnes qui ont développé la maladie. Et ce n'est pas un cas spécifique à la Guinée. Partout où il y a eu l'épidémie d'Ebola, c'est le même principe. C'est que la maladie va jusqu'à un pic, ça redescend, après ça remonte.
Les nouvelles zones touchées par la maladie ont été contaminées par 2 foyers de résistance et de transmission identifiés à Conakry, a précisé le représentant résident de l'OMS en Guinée. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Bonjour, c'est Nicolas Pinault. Du 12 juin au 13 juillet, retrouvez-moi tous les jours en direct du Brésil pour le journal de la Coupe du Monde. Les résultats, les coulisses et les à côté de cet événement planétaire. Matin et soir, La Voix de l'Amérique à l'heure brésilienne pendant un mois. Sans oublier notre site internet www.lavoixdelamérique.com ou notre page Facebook. La Coupe du Monde, évidemment à suivre sur La Voix de l'Amérique.
Voilà, c'est le thème de notre page sport et j'ai avec moi dans ce studio Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Timothée.
Nicolas, je disais hier à Bagassi que vous êtes encore physiquement avec nous ici, mais votre esprit plane déjà quelque part au Brésil, d'où vous nous ferez vivre le Mondial 2014.
Et oui, départ dimanche, mais en attendant, la Coupe du Monde, c'est dans maintenant une semaine, 8 jours avant le début. Et on va parler de cette dernière équipe, l'Australie, qui était la dernière équipe à ne pas avoir livré, évidemment, le nom de ses 23 joueurs retenus. Et le sélectionneur de l'Australie, Ange Postecoglou, a dévoilé ce mardi la liste des 23. A noté l'absence du défenseur Wilshire du Dynamo de Moscou et évidemment l'attaquant Kennedy, qui n'y figure pas.
Et voilà, bon, on a les éléphants de Côte d'Ivoire qui, eux, sont connus.
Oui, les éléphants de Côte d'Ivoire sont connus. Il n'y a pas de surprise, hein, puisque les grands Gervinho sont là, Yaya Touré également sont là. Et on va parler de la Colombie, puisque c'est la Colombie aujourd'hui, hein, qui pleure toujours sa vedette Radamel Falcao pour le Mondial. Le pays a réagi avec tristesse à la nouvelle, puisque évidemment il est blessé, il ne pourra pas se présenter sur place. C'est ce qu'a annoncé hier évidemment le sélectionneur, le forfait du Tigre, hein, c'est le surnom qu'on lui donne. Et ça a surpris et ça a déçu même lui-même le chef de l'État Timothée, le président Juan Manuel Santos. Et puis on va parler de la Coupe du Monde, puisqu'on a créé un site web exprès, Timothée, voabrésil2014.com, où évidemment les fans de la Voix de l'Amérique peuvent retrouver plein d'informations utiles, des chiffres et
des photos, des vidéos
pour vivre évidemment l'événement en direct et tout ce qui se passe. Et moi, je serai sur place à évidemment participer à faire des reportages là-dessus.
Mais pour revenir au cas de la Colombie, ce sont les adversaires de la Colombie qui doivent se réjouir en ce moment.
Et notamment les Ivoiriens, les Grecs et les Japonais, hein, qui seront tous ensemble dans ce groupe. C'est vrai que c'est un gros coup dur, hein, pour l'attaquant de l'AS Monaco, deuxième meilleur buteur du championnat de France. Vraiment, c'est un coup dur, mais les Colombiens peuvent quand même s'en sortir de ce groupe, qui, contrairement à ce qu'on annonce, n'est pas un groupe si facile que ça, hein, pour la Côte d'Ivoire.
Ben, que le meilleur gagne.
Ah oui, on verra bien.
Voilà. Nico, avant de nous quitter, un mot de tennis avec Roland Garros.
Tombeur de Roger Federer au tour précédent, Ernest Gulbis a éliminé Thomas Berdych en 3-7 ce mardi. Il rencontrera en demi-finale de Novak Djokovic. Et puis chez les femmes, Maria Sharapova est revenue de loin face à la surprenante espagnole Muguruza. Le score 1-6, 7-5, 6-1, qualification pour les demi-finales.
Nico, quand j'ai vu le nom Muguruza, j'avais pensé que c'était quelqu'un des grands lacs, une dame des grands lacs.
Ben oui, pardon.
Après les sports, la musique, comme tous les soirs avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgane, salut Chérubin. Même s'il est décédé il y a de ça près de 5 ans, hein, le King of Pop reste présent dans le cœur de ses fans. Son dernier album semble coller parfaitement bien avec l'image que l'on a de Michael Jackson. Un vrai grand succès posthume pour l'artiste. C'est fort probable. Ce soir, le nouveau son de MJ, Slave to the Rhythm.
She's at night, she dances to his needs. She dances till he feels just right, until he falls asleep. She dances at the crack of dawn, and quickly cooks his food.
Reconnu, c'était Michael Jackson. Merci Roger, Roger Muntou, que vous retrouvez dans quelques minutes dans le RM Show à 20h, temps universel. Voilà, ainsi s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Joselle Morissin a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec
et Timothée Donangmaï.
À demain.